Donc pour commencer cet exposé, en fait, j'aime bien faire une analogie entre le climat et le moteur d'une voiture, parce que vous allez voir, il y a plusieurs éléments qui sont assez similaires. Alors, quand vous voulez faire fonctionner un moteur, et ben vous devez mettre du carburant, forcément, hein, parce qu'un moteur, c'est jamais que la transformation d'une énergie. Donc, dans un moteur de voiture, en fait, on a de l'énergie chimique qui est dans l'essence, et puis on la transforme en énergie mécanique, en mouvement, à travers donc le moteur. Bah, sur la Terre, dans le système Terre, dans le système climat, le carburant, c'est l'énergie qui vient du Soleil, donc c'est de l'énergie sous forme radiative, ce sont des rayons lumineux, et puis ensuite, donc cette énergie est transformée dans le climat de la Terre en mettant en mouvement l'atmosphère. Et donc, finalement, le vent, la pluie, l'écoulement des rivières, tout ça, c'est une manifestation de la machine climatique, c'est la transformation de l'énergie du soleil en une énergie de mouvement, et éventuellement en chaleur. Mais évidemment, puisqu'il y a de l'énergie qui rentre, eh ben, il faut, pour éviter que ça chauffe trop, il faut la faire sortir. Donc, dans un moteur de voiture, vous avez un radiateur, hein, qui sert à évacuer la chaleur du moteur. Et sur la Terre, ce moteur, c'est ce radiateur, c'est l'atmosphère. L'atmosphère permet de renvoyer une partie de l'énergie vers l'espace sous forme de rayonnement infrarouge. Je vais y revenir dans un moment. Puis vous savez peut-être que sur une voiture, bah, quelquefois le radiateur il est percé, hein, donc il y a plus d'eau dedans. Du coup, l'échange se fait moins bien et donc le moteur se met trop à chauffer. Et ben dans la machine climatique aujourd'hui justement, on est en train de boucher, d'une certaine manière, on est en train de boucher le radiateur, et c'est ça qui va conduire au changement climatique qu'on a déjà observé en partie, mais qu'on pense qu'on va beaucoup observer au cours du XXIe siècle. Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut que je parle un petit peu de l'effet de serre, du principe de l'effet de serre. En fait, l'effet de serre, on peut la présenter de manière approchée, de manière simple, c'est ce que je vais faire dans la minute qui vient, mais je sais que c'est pas complètement exact. C'est-à-dire que si je voulais vous présenter l'effet de serre de manière parfaitement exacte, vraiment sans faire d'approximation, j'en aurais pour une heure et demie à peu près. Donc on va essayer d'éviter de faire ça. Donc je vous explique quelque chose qui est une approximation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Terre est réchauffée par les rayons du Soleil. Les rayons du Soleil, c'est du rayonnement qui est essentiellement visible, hein, donc c'est quelque chose que votre œil peut capter. Et vous savez que l'atmosphère est transparente au rayonnement visible. L'atmosphère est transparente puisque vous pouvez voir le Soleil, vous pouvez voir les étoiles de la nuit. Donc pour le rayonnement, pour la couleur finalement de la lumière qui vient du Soleil, l'atmosphère est transparente. En fait, la Terre est un corps qui a une certaine température, donc une température qui est entre 0 et 40 degrés suivant les endroits, ou même moins 20 degrés et 40 degrés, alors que le Soleil est à une température qui est de l'ordre de 5000 degrés. Ben, la Terre émet, comme le Soleil, elle émet aussi de la lumière, enfin du rayonnement. Simplement, c'est le même principe, mais c'est pas la même couleur, c'est pas la même longueur d'onde, hein, d'accord? Donc, c'est la même chose, mais c'est un rayonnement qui est vraiment identique, simplement notre œil n'y est pas sensible. On peut parfaitement, le rayonnement qui est émis par la Terre, on peut le mesurer avec des appareils, mais on ne peut pas le voir avec notre œil. Mais il existe. En fait, c'est un rayonnement qu'on appelle infrarouge. Donc la Terre se refroidit en émettant vers l'espace du rayonnement infrarouge. Simplement, la différence par rapport au rayonnement solaire, enfin, une différence, c'est que l'atmosphère est complètement opaque, enfin, est essentiellement opaque au rayonnement infrarouge. C'est-à-dire que si votre œil était sensible, non pas à la lumière du soleil, qui est émise par le soleil, mais à ce rayonnement infrarouge, eh ben, vous ne pourriez pas voir les étoiles, par exemple, parce que vous verriez que l'atmosphère, vous verriez pas plus loin que l'atmosphère, un peu comme quand il y a des nuages. Quand il y a des nuages, ben, on voit pas plus loin que le nuage, eh ben, c'est la même chose. Du coup, ce rayonnement infrarouge, en fait, il peut pas s'échapper directement vers l'espace. En fait, il est absorbé par l'atmosphère. L'atmosphère le réémet avait une température différente, donc elle en réémet un peu moins. Okay. Donc ça, c'est un processus qui est naturel. Hein. L'effet de serre, ça a toujours existé. Il est généré essentiellement par la vapeur d'eau et par le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc c'est un phénomène qui est nécessaire à la vie, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas cet effet de serre, la température de la surface de la Terre serait beaucoup plus froide qu'aujourd'hui, et donc probablement il n'y aurait pas de vie sur Terre, donc c'est un effet qui est nécessaire. Simplement, en augmentant la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, on augmente encore cet effet-là, D'accord ? Donc on va encore augmenter la température. Donc là où on avait, grâce à l'effet de serre, on est passé de moins 15 degrés à, ou moins 18 degrés à plus 15 degrés, qui est la température moyenne de la Terre. Moyenne, hein, bien sûr, il y a des grandes variations par rapport à ça. Et simplement, donc en augmentant encore l'effet de serre, bah, au lieu d'avoir plus 15 degrés en moyenne, on va avoir plus 16 ou plus 17 degrés. Enfin, ensuite, ça dépend de la quantité de dioxyde de carbone qu'on met dans l'atmosphère. Alors, avant de parler du... Je vais parler tout à l'heure du climat du futur, hein, du changement climatique qu'on risque d'avoir au XXIe siècle, mais d'abord, je pense que c'est intéressant de parler de ce qui s'est déjà passé. Et en particulier, je voudrais vous montrer que du changement climatique, il y en a toujours eu, et même avant que l'homme ait une influence significative sur la Terre. Alors, comment on fait pour étudier les climats du passé? Là aussi, je pourrais pas en parler pendant 3 heures. Hein, il y a plein de techniques pour étudier le climat du passé. Je vous montre juste quelques exemples. En bas à gauche, en fait, je vous ai montré un cerne d'arbre. Enfin, un tronc d'arbre qui a été coupé. Et en fait, donc, quand on coupe un tronc comme ça, vous avez certainement déjà vu ça. Vous voyez à l'intérieur des cernes. Vous voyez les cernes. Donc, c'est ce qui montre un petit peu la croissance annuelle de l'arbre. Et en fait, on voit, quand on regarde de près, on voit très bien qu'il y a des années où l'arbre a beaucoup grossi, et d'autres au contraire, où il n'a pas tellement grossi. En fait, c'est simplement parce qu'il y a des années qui sont favorables, dont la température, l'humidité sont favorables à la croissance de l'arbre, et puis il y a d'autres années où, au contraire, là, il a fait vraiment assez frais et froid pendant l'été, et du coup, l'arbre a très peu grossi. Donc en fait, en regardant un petit peu la largeur des cernes, on peut avoir une information si le climat était favorable ou pas à la croissance de l'arbre, et donc on peut avoir quelques informations sur le climat du passé. Donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé pour remonter sur des époques jusqu'à typiquement 2000 ans. 2000 ans en arrière, parce qu'on retrouve, bah, par exemple, dans les cathédrales qui ont été construites il y a 600 ans, on retrouve des poutres, donc c'est des arbres qui avaient été coupés à ce moment-là, il y a 600 ans, et donc c'est des arbres qui avaient déjà 500 ans. Donc du coup, on peut remonter comme ça encore plus loin dans le passé. Bon, je rentre pas plus dans les détails. En haut à gauche, ce que vous avez, c'est vous avez une image d'une carotte de glace. Alors qu'est-ce que c'est qu'une carotte? C'est un tube, c'est un cylindre de glace qu'on allait creuser, soit par exemple au Groenland ou alors en Antarctique. Là, vous imaginez bien que, en fait, en Antarctique, qu'est-ce qui se passe? Bah, chaque année, il neige un peu, vraiment pas beaucoup. En fait, l'Antarctique, c'est un endroit qui est très très sec, mais quand même, chaque année, il y a un petit peu de glace qui se dépose sur le sol, et donc ça rajoute des couches au fur et à mesure. Donc finalement, quand vous creusez dans la glace de l'Antarctique, ben vous remontez dans le temps de plus en plus bas. Si vous allez à 1000 mètres de profondeur, c'est de la glace qui s'est déposée il y a 10 000 ans, hein, et si vous allez encore plus bas, vous pouvez remonter comme ça à plusieurs centaines de milliers d'années. En fait, la glace la plus ancienne qu'on a trouvée en Antarctique, elle a 800 000 ans. Alors pourquoi c'est intéressant de trouver de la glace qui est vieille? C'est que, en fait, il y a c'est pas que de l'eau, en fait, la glace. D'abord, il y a différents isotopes. Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Ça touche à la structure du noyau des molécules d'eau. Mais, donc là aussi, je rentre pas dans les détails, mais sachez que, en fait, à partir de cette composition en isotope de l'eau, on peut avoir des informations sur la température de la glace au moment où de l'eau au moment où elle s'est déposée sous forme de glace sur l'Antarctique. Donc ça nous donne des informations sur la température moyenne de la Terre jusqu'à typiquement 800 000 ans. Et puis d'autre part, dans la glace, il y a aussi des toutes petites bulles d'air. En fait, c'est de l'air qui a été piégé par la neige, par la glace, au moment où la neige s'est déposée. En fait, c'est des petites bulles qui sont absolument minuscules, mais avec les techniques qu'on a aujourd'hui, eh ben, c'est suffisant, il y a suffisamment d'air pour mesurer, pour analyser la composition qu'il y avait à cette époque-là. Du coup, on peut avoir des informations sur la composition de l'atmosphère sur les 800 000 dernières années. Donc voilà, je vais en reparler tout à l'heure, mais juste pour vous donner un peu cette information. Et puis, en haut à droite, je vous montre une autre image. Alors là, c'est toujours une carotte, c'est-à-dire toujours un cylindre qu'on va aller extraire, mais non pas dans la glace, mais dans la boue, dans les sédiments qui sont au fond des océans. Donc au fond des océans, finalement, c'est un peu c'est une forme de boue qui est plus ou moins compacte, qui s'est de la même manière, c'est de la poussière qui s'est déposée au cours du temps. Et puis, donc, plus on va profond, plus on remonte à des des choses qui sont déposées avant. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Ben, entre autres, on retrouve ce que vous, les petites images que vous avez en haut à droite, c'est, par exemple, c'est les squelettes des toutes petites bestioles qui existaient à l'époque en surface, ce qu'on appelle en particulier des foraminifères. Donc, c'est les organismes marins microscopiques. Et en fait, suivant la température de l'eau, c'est pas les mêmes organismes qui vivent. Hein, les organismes qui aiment bien 22 degrés, c'est pas les mêmes que ceux qui aiment bien 18 degrés. Et donc, ce qu'on peut, c'est, on analyse quels sont les squelettes qu'on trouve à cet endroit-là, dans les différentes couches. Puis donc, si on trouve plutôt les squelettes des bêtes qui aiment bien 22 degrés, on va dire, bah, ok, à cette époque-là, enfin, à l'époque qui correspond à cette profondeur-là, eh ben, il fait à telle température. Voilà un peu comment on a des informations sur les climats du passé. Et tiens, donc, ces carottes de sédiments, là, pour le coup, on arrive à remonter à plusieurs millions d'années en arrière. Ça va, l'enregistrement est plus long. Alors là, je vous montre, sur cette image, vous avez à gauche, là, à quoi ressemble la Terre à peu près aujourd'hui. Alors, à quoi ressemble la Terre une fois qu'on a viré des nuages, hein, évidemment, ça n'arrive pas souvent, enfin, ça n'arrive jamais, en fait, qu'on ait une Terre complètement claire comme ça, mais on a représenté la Terre sans nuages, telle qu'elle est aujourd'hui. Essentiellement, bon, vous reconnaissez, je pense, l'Afrique en bas à droite, l'Amérique du Nord en haut à gauche, et puis ce qui est intéressant surtout, c'est la partie qui est au centre en haut, donc vous reconnaissez le Groenland, qui est une île qui est pratiquement complètement recouverte de glace, pas complètement, hein, sur le bord de côte, en particulier sur la côte ouest, il y a des zones sans glace, et donc il y a même des gens qui vivent là-bas, pas beaucoup, mais il y en a un petit peu, il y a quelques milliers de personnes qui vivent là. Et puis vous voyez encore plus au nord, hein, donc ça c'est le pôle nord, vous voyez qu'il y a une surface d'eau qui est recouverte de glace, donc ça c'est de la glace flottante, ce qu'on appelle de la banquise, avec de la banquise, la surface de la banquise, là vous avez plutôt la surface au moment de, à la fin de l'été, hein, donc la surface de banquise est minimale, et puis bah, pendant l'hiver, la surface recouverte d'eau gelée a tendance à grossir, et comme ça chaque année, bah, ça grossit, ça diminue, ça grossit, ça diminue. Donc là vous avez l'état de la banquise à la fin de l'hiver. Donc ce que vous avez maintenant sur l'image de droite, c'est la même chose, la Terre sans nuages, mais pendant une époque glaciaire. Alors une époque glaciaire, c'est typiquement ce qui se passait il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, ça ressemblait à ça. Alors 20 000 ans, vous pouvez dire, c'est super loin, mais 20 000 ans, il y avait des humains sur Terre. Hein. Les grottes de Lascaux, c'est à peu près cette période-là. Donc c'était une période qui était beaucoup plus froide qu'aujourd'hui. Typiquement, la température moyenne de la Terre était 5 degrés plus froide qu'aujourd'hui, mais sur ce qui est aujourd'hui la France, c'était plutôt une dizaine de degrés de moins qu'aujourd'hui. Donc un climat qui a quand même pas grand chose à voir. Et donc ce que vous voyez, c'est que le Groenland, par exemple, est complètement recouvert de glace, hein, même il s'étend un peu sur la mer. Vous voyez que la zone de banquise, elle est aussi beaucoup plus grande. Et vous voyez surtout que bah, sur le nord de l'Amérique du Nord, eh ben, donc là où il y a le Canada aujourd'hui, c'est complètement recouvert de glace. Et quand je dis complètement recouvert de glace, c'est pas 30 cm de neige, hein, c'est 3 km de glace. Sur le nord de l'Amérique du Nord, il y a 20 000 ans, il y avait 3 km de glace. Et pareil, si vous regardez ce qui se passe sur le nord de l'Europe, là aussi, sur la Scandinavie, par exemple, là où il y a aujourd'hui un peu de montagne et puis surtout des forêts, ben là aussi, il y avait 3 km de glace. Et les Alpes, c'est pareil, il n'y avait pas quelques sommets avec de la neige dessus. Là où il y a Grenoble, par exemple, eh ben, c'était une vallée qui était entièrement... Enfin, c'était une vallée glaciaire, c'était un fleuve de glace. Au-dessus de Grenoble, il y avait plusieurs kilomètres de glace. Donc vous voyez un climat, enfin un paysage en tout cas, qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, et un climat qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Et ça, c'est pas lié à l'humain, bien évidemment. Ce sont des variations naturelles qui sont liées essentiellement à l'orbite de la Terre autour du Soleil. Là encore, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais le fait que la Terre, en fait... Vous savez tous que la Terre tourne autour du Soleil. Alors c'est pas exactement un cercle, hein, c'est une forme d'ellipse. Donc il y a des moments où la Terre est plus ou moins loin du Soleil. En fait, la Terre est un peu plus près du Soleil pendant l'hiver que pendant l'été, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et du coup, ça, le fait que l'orbite change très légèrement, ça a une influence sur le climat, et c'est ça qui explique les alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. Bon, ça c'est juste pour vous montrer, ça c'est un peu un zoom de la partie précédente sur l'Europe. Hein, vous voyez que vous reconnaissez en bas à gauche, vous avez l'Espagne, au centre vous avez la France, et puis donc cette énorme calotte de glace sur le nord de l'Europe. Juste par rapport à la figure précédente, ce qui est intéressant là, c'est de voir la position des côtes. Hein, les côtes n'étaient pas exactement... Vous voyez que la forme des pays n'est pas exactement la même qu'aujourd'hui. Simplement parce que toute la glace là, qui était sur l'Amérique du Nord, sur le Groenland ou sur l'Europe du Nord, elle avait été prise dans la mer. Donc la mer était 110 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et donc évidemment la côte elle était un peu plus loin, donc la forme des continents n'était pas la même qu'aujourd'hui, et on pouvait aller en Angleterre à pied sec par exemple, ou on pouvait aller de la Corse à la Sardaigne là aussi sans se mouiller les pieds. Bon, donc tout ça c'est pour parler un peu des climats du passé, pour expliquer que oui, le climat de la Terre c'est quelque chose qui est assez sensible et qui peut varier et qui a déjà varié à cause des forçages entre autres du Soleil autour de la Terre autour du Soleil, de son orbite. Alors aujourd'hui, maintenant on va parler, quand on parle de changement climatique, on parle plutôt de ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ce qui éventuellement va se passer au cours des prochains siècles, et qui est un changement climatique qui est forcé par l'homme. Alors pour bien comprendre ça, il faut que je parle un petit peu de cycle du carbone. Vous avez tous entendu parler du dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère. Vous avez tous entendu parler de la photosynthèse aussi, du processus des plantes qui absorbent une partie du dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère et puis qui le mettent sous forme de biomasse, sous forme de matériaux végétaux. En fait, ça, c'est donc un processus naturel, la photosynthèse, dont la source d'énergie, c'est le soleil. Hein, c'est les photons, les rayons du soleil qui sont absorbés par la chlorophylle dans les plantes et qui génèrent un processus chimique qui transforme le dioxyde de carbone en carbone d'une part, en rejetant l'oxygène. Alors ce processus, chaque année, il absorbe 100 milliards de tonnes de carbone, il y a 100 milliards de tonnes de carbone qui sont prises de l'atmosphère et qui sont absorbées par la végétation. 100 milliards de tonnes, je pense que c'est quelque chose qui est énorme. Mais dans le même temps, la végétation, c'est un être vivant, et les êtres vivants, ça respire. Hein, et donc en particulier, pendant l'été, c'est surtout le processus de la photosynthèse qui est dominant, mais pas complètement, mais pas la nuit. Par exemple, la nuit, la plante continue à respirer et donc émet une partie de dioxyde de carbone. Et de même en hiver, la plante respire toute l'année, hein, mais en hiver, elle continue à respirer, donc elle émet aussi du dioxyde de carbone vers l'atmosphère. Et ça, c'est typiquement 50 milliards de tonnes chaque année. Donc il y a eu 100 milliards de tonnes qui sont rentrées dans la plante, et puis mais la plante elle émet aussi 50 milliards de tonnes en respirant. Et puis d'autre part, une plante, c'est un être vivant, donc ça meurt au bout d'un moment, ou ça meurt en partie. Quand vous avez des feuilles à la fin de l'été, à l'automne, il y a des feuilles qui tombent sur le sol, donc c'est une partie de la matière vivante qui meurt finalement. Et une fois que un arbre à la fin de sa vie, une fois qu'il est mort, il tombe sur le sol. Et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pourrir sur le sol. Alors qu'est-ce que ça veut dire pourrir? Ça veut dire que c'est digéré, c'est mangé par les micro-organismes qui sont dans le sol, qui sont des êtres vivants là aussi. Et donc ça respire aussi. Donc en fait, les micro-organismes, ils prennent le carbone de leur source d'énergie, c'est le carbone de la végétation, et puis ils respirent, et donc ils transforment ce carbone sous forme de CO2, ça leur donne la source d'énergie pour vivre. Et donc ce processus, là aussi, ça met typiquement 50 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère. Donc vous voyez que le processus, le cycle naturel du carbone entre la végétation et l'atmosphère, ça échange typiquement 100 milliards de tonnes de carbone chaque année, mais c'est quelque chose qui est équilibré, c'est-à-dire qu'il y en a autant qui rentre que autant qui sort. Alors sur les océans, il y a des processus similaires, c'est pas exactement la même chose, c'est les mêmes ordres de grandeur. Vous voyez que les flèches que j'ai mis là, c'est 70 milliards de tonnes de carbone chaque année qui sont échangées, mais là aussi quelque chose d'équilibré. Alors maintenant, si on va sur la courbe de droite, on voit que le cycle du carbone qui est perturbé par le fait que l'homme utilise des combustibles fossiles. Alors les combustibles fossiles, c'était d'abord le charbon. Hein, on a découvert le charbon il y a deux siècles. On s'est aperçu que c'était vachement utile, que ça donnait une source d'énergie très facile à utiliser, qui permettait de faire de se chauffer, de faire tourner des machines à vapeur, hein, donc des trains et puis plus tard des automobiles. On a trouvé du pétrole ensuite, du gaz naturel ensuite. Tout ça, c'est quelque chose qu'on utilise, et quand on l'utilise, quand on le brûle finalement, ça met on transforme du carbone en dioxyde de carbone qu'on rejette dans l'atmosphère. Et donc ça, les ordres de grandeur, hein, ben ça dépend un peu des années, mais typiquement, aujourd'hui, l'homme, en brûlant les combustibles fossiles, met 8 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère chaque année. Donc ça veut dire que, vous savez qu'il y a à peu près 6 milliards, enfin entre 6 et 7 milliards d'êtres humains sur Terre, donc ça veut dire qu'en moyenne, chaque être humain met une tonne de carbone dans l'atmosphère chaque année. Alors ça c'est en moyenne, mais évidemment les gens au Mali, ils en émettent beaucoup moins que ça, et puis les Américains ils en émettent beaucoup plus. J'ai des chiffres un peu que je vous donnerai tout à l'heure. Le Français moyen, il met chaque année 1,7 tonnes de carbone dans l'atmosphère. Alors ça, ensuite, ça a des impacts sur la composition de l'atmosphère, évidemment. Ben, quand on met quelque chose, quand on met du carbone dans l'atmosphère, eh ben, a priori, sa concentration va augmenter. Et donc ça, c'est ce qu'on observe. Mais en fait, c'était pas sûr. Quand, au début du XXe siècle, les scientifiques se posaient un peu la question de savoir si, ben, ils savaient qu'on brûlait déjà du charbon à l'époque, et donc il y avait des gens qui disaient, mais attention, a priori, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère va augmenter, et puisque le principe de l'effet de serre était déjà compris au début du XXe siècle, hein, il y a une centaine d'années, le principe de l'effet de serre, il était compris peut-être pas autant dans les détails qu'aujourd'hui, mais il était quand même, grossièrement, il était compris. Donc il y a déjà à l'époque, il y avait des gens qui disaient, mais attention, si on continue à brûler du charbon, on va réchauffer la Terre. Mais en fait, ils trouvaient ça vachement bien. La première personne à avoir dit, mais il va y avoir une augmentation de la température parce qu'on brûle du charbon, c'était un Suédois qui s'appelait Arrhenius, et il disait, mais ça va être vachement bien parce que ça va favoriser l'agriculture sur la Terre. Bref, donc ça, il y avait des gens qui disaient ça. Il y en avait d'autres qui disaient, mais non, de toute façon, même si tout le dioxyde de carbone qu'on met dans l'atmosphère, il va être mangé aussitôt par les plantes, donc a priori, il n'y a pas de raison que la concentration change. Et donc, bah, pour résoudre cette question, dans les années 1950, il y a des gens qui se sont dit, bon, bah, il faut absolument qu'on mesure cette concentration. Alors, c'est pas facile à faire parce que la concentration, elle est très faible. Donc, pour mesurer précisément les concentrations, eh ben, c'est pas évident. Il faut des appareils très précis, mais qui ont été mis au point, justement, dans les années 50. Donc, voilà. Donc, depuis 1956, je crois, on mesure très précisément la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et donc, ça donne la courbe que vous avez là. Donc le premier truc qu'on voit, c'est qu'on a une tendance générale à l'augmentation. Hein, donc finalement, ceux qui avaient prévu une augmentation de la concentration, c'est eux qui avaient raison. Et puis on voit par ailleurs, enfin je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait la courbe noire, c'est une courbe qui est lissée, mais vous avez une courbe en bleu qui est en trait un peu fin, là qui montre un peu ces oscillations comme ça. Alors les oscillations qui ont une période d'un an, eh ben, c'est simplement ben, pendant au printemps et en été, la photosynthèse ça fonctionne à fond. Donc la végétation, elle pompe du carbone, donc la concentration a tendance à diminuer. Et puis au contraire, pendant l'hiver et à l'automne, eh ben là, il n'y a plus de photosynthèse. Par contre, il continue à avoir de la respiration des plantes. Et du coup, on voit une augmentation. Donc en fait, il y a une diminution et puis il y a une augmentation plus forte. Une diminution et puis une augmentation plus forte. Une diminution et une augmentation plus forte. Et donc c'est ça que vous voyez. Alors donc, quand on a fait les premières mesures, on a mesuré 320 ppm. Ppm, ça veut dire parties par million. Ça veut dire si vous avez un petit volume d'air dans lequel il y a 1 million de molécules et que vous les regardez une par une, et ben sur ce million de molécules, il y en aura 320 qui seront des molécules de CO2. La plupart, ce sera des molécules d'azote ou des molécules d'oxygène. Mais sur ce million, vous en trouverez 320 qui sont des molécules de dioxyde de carbone. Donc ça, c'était quand on a commencé les mesures en 1956. Aujourd'hui, on est plutôt à 385, hein, la valeur typique. Alors ça dépend si en été ou en hiver. Et puis en remontant, donc en analysant par exemple les carottes de glace, on s'est dit qu'on a déterminé que au pré-industriel, hein, donc avant qu'on commence à utiliser du charbon, donc typiquement il y a 200-250 ans, on était à des concentrations de 280 ppm, parties par million. Donc vous voyez que, en gros, les activités humaines ont conduit à une augmentation de typiquement 100 parties par million de la concentration en dioxyde de carbone. Alors est-ce que c'est beaucoup? On peut se dire, bah oui, bah, 100 ppm, est-ce que, bon, je veux dire, c'est pas évident que ce soit quelque chose de significatif. Alors, pour voir si c'est significatif, on peut s'interroger sur est-ce que est-ce que les variations naturelles de ce truc-là sont plus grandes, plus petites que ça? Et alors là, on va aller chercher les carottes de glace dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, carottes de glace qui sont faites en Antarctique. Je vous ai dit qu'on pouvait remonter comme ça la composition de l'air sur les derniers 800 000 ans. Alors là, je vous montre pas les derniers 800 000 ans, je vous montre les derniers 450 000 ans, parce que c'est une carotte de glace qui allait moins profond. Et donc cette carotte, elle montre justement la concentration de dioxyde de carbone sur les 450 000 dernières années. Donc le présent, vous l'avez à droite, et puis le passé très lointain, vous l'avez à gauche. Et donc vous voyez que au cours des époques passées, là, il y a eu des variations naturelles. En fait, ce qu'on retrouve, c'est qu'en gros, les périodes où il faisait plutôt chaud, donc un climat qui ressemble à celui d'aujourd'hui, on avait des concentrations qui étaient de l'ordre de 260 parties par million. Et puis au contraire, les périodes qui étaient plutôt froides, quand je vous ai dit là tout à l'heure 3 km de glace sur l'Amérique du Nord ou 3 km de glace sur l'Europe du Nord, on était plutôt à des concentrations qui sont de l'ordre de 150 parties par million. Donc vous voyez que les variations naturelles, c'est typiquement entre 150 et 260. Et là, en typiquement 150 ans, on a pris 100 ppm de plus. Donc ça veut dire qu'on est complètement sorti des variations naturelles. Et puis, surtout, à un rythme qui est beaucoup plus rapide que les variations naturelles qu'on avait observées dans le futur. Donc est-ce que c'est significatif? Est-ce que cette variation de concentration de dioxyde de carbone est significatif? Oui, c'est important c'est très important par rapport aux variations naturelles, et surtout, c'est très rapide. Alors bon, il n'y a pas de doute que les activités humaines, que le fait de brûler du pétrole, du charbon et compagnie, sont la cause de cette augmentation de dioxyde de carbone. Et en plus, on a une augmentation qui est quand même de plus en plus importante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc là, je montre ce que montre cette figure, c'est justement les émissions de carbone par l'être humain au cours du temps. Vous voyez qu'en haut à droite, vous avez une courbe qui commence en 1850, donc c'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à découvrir le charbon et découvrir que le charbon, c'était vraiment un moteur du développement industriel, donc il y a quelque chose de bien quand même pour l'être humain. On est sorti d'une population purement agricole à une société industrielle qui a permis le progrès technique qu'on a eu depuis. Et donc sur les 150 dernières années, donc vous voyez qu'au début, on émettait très peu de carbone parce que d'abord, les gens qui chauffaient au charbon, il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y avait personne qui avait de voiture. Il y avait très peu de gens qui voyageaient en train. Et évidemment, il n'y avait pas d'avion. Donc finalement, la consommation de combustibles fossiles était assez faible. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui ont eu accès à ces ressources. On a découvert le pétrole. Et donc, on a une augmentation des émissions de carbone dans l'atmosphère qui sont de plus en plus rapides. Quand je dis de plus en plus rapides, en plus, c'est vraiment très fort, puisque dans les années 90, on augmentait nos émissions de typiquement 1,3% par an. Et dans les années 2000, en fait, c'était plutôt 3% par an. En fait, ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est que le développement économique de la Chine a explosé, et le développement économique de la Chine, il est basé essentiellement sur le charbon. Et le charbon, quand on utilise le charbon, ça met, pour une quantité d'énergie donnée, ça met énormément de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc c'est ça qui explique cette augmentation rapide qu'on observe aujourd'hui. Bon, ça, je vais pas en parler. Par contre, ce que je veux dire quelques mots, c'est le fait que la nature nous aide. En fait, donc je vous ai dit, typiquement aujourd'hui, 8 milliards de tonnes de carbone sont émises dans l'atmosphère chaque année. Mais si on mesure la concentration de dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère, on peut en déduire une masse de carbone présente dans l'atmosphère. Et en fait, au lieu de trouver 8, comme on pourrait s'y attendre, en fait, on ne trouve que 4. C'est un peu comme si vous aviez votre baignoire, vous êtes capable de mesurer précisément combien il y a d'eau qui coule dans la baignoire, donc vous savez qu'il y a par exemple 1 litre par minute, donc au bout d'une heure, vous arrêtez le robinet, et puis au lieu de trouver 60 litres dans la baignoire comme vous y attendez, 1 litre par minute fois 60 minutes, vous ne trouvez que 30 litres. Voilà, c'est un peu à peu près ça. Donc en fait, il y a une fuite quelque part, et en fait, cette fuite, c'est la végétation et les océans. C'est-à-dire qu'il y a une partie du dioxyde de carbone qu'on met dans l'atmosphère, qui n'y reste pas, et qui va une partie dans la végétation et une partie dans l'océan. Alors il y a des chercheurs justement qui travaillent très fort là-dessus, en particulier dans mon groupe, il y a des gens qui essayent de savoir précisément où ça part, dans quelle partie de l'océan, dans quelle végétation, pourquoi est-ce que ça va continuer. Donc aujourd'hui, typiquement, quand l'homme émet une tonne de carbone dans l'atmosphère, l'année suivante, ou à peu près, on en retrouve la moitié, donc 500 kg dans l'atmosphère. Il y en a 250 kg qui sont partis dans la végétation, et puis il y en a 250 kg qui sont partis dans l'océan. Ce sont les ordres de grandeur. Alors la nature, elle freine un petit peu l'augmentation de l'effet de serre et donc le changement climatique, comme je vais l'expliquer dans quelques minutes. Une question scientifique qui n'est pas résolue actuellement, sur laquelle les gens travaillent, c'est est-ce que ça va continuer comme ça dans le futur? C'est-à-dire qu'au cours du 20e siècle et du début du 21e siècle, ce rapport-là, 50% qui reste dans l'atmosphère, 50% qui part dans la végétation et l'océan, il est resté à peu près stable. C'est-à-dire que même quand on émettait la moitié moins qu'aujourd'hui de carbone, dans les années 70, c'était déjà 50%. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer au cours du 21e siècle, et il n'est pas du tout évident que ça continue comme ça. En fait, on pense plutôt que l'océan, c'est vraiment une très grosse poubelle, donc très probablement, ça va continuer à absorber du dioxyde de carbone de la même manière. Par contre, la végétation, il y a vraiment des craintes sur le fait que, aujourd'hui, la végétation, elle aime bien ce qui se passe, parce que le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est sa nourriture. Et donc, si vous mettez plus de nourriture à disposition, la végétation, elle trouve que c'est très bien, et donc elle grossit parce que il y a plus de nourriture. Alors, on pourrait se dire, on va en mettre de plus en plus, donc la végétation, elle va aimer ça de mieux en mieux. Mais d'un autre côté, la végétation n'aime pas forcément le changement climatique. Vous souvenez peut-être que ce qu'il y a eu en 2003, il y a eu une très grosse canicule et une sécheresse en France. La végétation en France, elle n'a pas du tout aimé ce moment-là. Et donc, au lieu de pomper du dioxyde de carbone, en fait, il y a pas mal de végétaux qui sont morts et donc qui ont émis du dioxyde de carbone. Il y a eu plusieurs sécheresses à répétition en Amazonie ces dernières années. Là aussi, l'Amazonie, au lieu d'être un puits de carbone, les années où il y a eu la sécheresse, elles ont eu tendance à émettre du carbone. Et il y a des gens qui pensent que le changement climatique, ça va conduire à des sécheresses toujours plus fortes en Amazonie et toute la forêt amazonienne va mourir, en fait. Auquel cas, ça va devenir une énorme source de carbone dans l'atmosphère. Donc ce qui est aujourd'hui un puits pourrait, je dis bien pourrait, parce que c'est encore quelque chose qui est controversé, les différents chercheurs ne sont pas forcément d'accord là-dessus, mais ça pourrait devenir une source et donc accélérer encore l'augmentation de l'effet de serre. Là, ce transparent, c'est mon graphique que je considère être le plus compliqué de tous ceux que je vous montre aujourd'hui. Donc, si vous ne le comprenez pas, c'est pas très grave. Ce que j'essaie de montrer, en fait, c'est l'importance relative des différents gaz. C'est-à-dire que là, je vous ai beaucoup parlé du dioxyde de carbone, mais c'est pas le seul gaz que l'homme émet qui augmente l'effet de serre dans l'atmosphère. On parle aussi, il y a eu aussi le méthane, dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis, il y a des autres gaz qui sont les CFC. Alors ça, c'est des gaz qui étaient en particulier utilisés dans l'industrie chimique, mais aussi dans les frigos. En fait, c'est des gaz qui sont très utiles, ou alors dans les bombes, dans les bombes aérosols. Enfin, à une époque, ils étaient utiles, parce que c'était des gaz qui sont très stables, donc il n'y avait pas de corrosion, il n'y avait pas de risque d'explosion, des trucs comme ça, quoi. Donc ça a été des gaz qui étaient très utilisés, mais on s'est aperçu qu'ils étaient très mauvais pour la couche d'ozone, et donc ils ont été interdits. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de production de ces fameux CFC. Alors, donc qu'est-ce qu'elle montre, la courbe? La courbe, elle est en fonction du temps. Vous voyez que chaque barre, c'est une année, donc de 1960 à 2005. Et chaque barre, elle montre de combien l'effet de serre a augmenté cette année-là, entre l'année précédente et cette année-là, de combien l'effet de serre a augmenté. Et en fait, ça le montre, les différentes couleurs, c'est les différents gaz. Donc vous voyez que le bleu clair, c'est le dioxyde de carbone, le bleu foncé, c'est le méthane, et puis, il y a d'autres trucs, mais le rouge, ce sont les CFC. Alors ce que vous voyez, c'est que par exemple, dans les années 80, là, qui est à peu près au milieu de ma figure, vous voyez que l'augmentation d'une année sur l'autre, l'augmentation de l'effet de serre, c'était très important, c'était aussi important qu'aujourd'hui, mais c'était à peu près pour la moitié la barre bleu clair, donc ça veut dire que l'augmentation de l'effet de serre, c'était pour la moitié le dioxyde de carbone, et vous voyez que c'était aussi beaucoup le méthane et les fameux CFC. Vous voyez que donc les trucs en rouge là, donc ça a beaucoup augmenté dans les années 80, mais on les a interdits maintenant. Et donc vous voyez que la concentration des CFC aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est la partie droite de la figure, aujourd'hui la concentration des CFC dans l'atmosphère n'augmente plus. Donc il n'y a plus d'augmentation de l'effet de serre à cause de ces autres gaz. Par contre, vous voyez que c'est vraiment l'augmentation de l'effet de serre continue à cause du dioxyde de carbone et pratiquement uniquement le dioxyde de carbone. Donc cette figure là, elle est juste pour vous dire que je ne parle que du dioxyde de carbone, ou pratiquement que du dioxyde de carbone dans ma présentation. Je suis parfaitement conscient qu'il y a d'autres gaz qui participent aussi à l'effet de serre, mais ils sont quand même moins importants. Et en particulier sur les années récentes, aujourd'hui, c'est essentiellement le dioxyde de carbone qui augmente, et donc c'est vraiment le principal problème. Alors maintenant, je vous montre donc je vous ai parlé de composition de l'atmosphère jusqu'à maintenant. Donc maintenant, je vous parle un peu de température. Alors, donc je vous parle de climat. Alors évidemment, le climat, c'est plein de paramètres. Hein, on peut le vent qui est à un endroit donné, la précipitation, la quantité de nuages, tout ça, ce sont des paramètres de climat. La température ici, c'est un paramètre du climat. La température à Paris, c'est un paramètre du climat. Donc tout ça, évidemment, tous ces paramètres sont regardés par les climatologues. Et je ne vais pas passer 10 heures à vous montrer chaque paramètre un par un. Et donc le paramètre qui est le plus facile à montrer, bah, c'est par exemple la température moyenne de la Terre, c'est le truc qui est le plus parlant. Et puis en plus, c'est moyenné, donc il y a moins de bruit, il y a moins de variabilité sur les mesures. Donc voilà, donc ça c'est une courbe qui montre la température moyenne de la Terre. Alors contrairement, il y a des gens qui s'imaginent qu'on fait des mesures avec des thermomètres seulement depuis 25 ans. Non, depuis à peu près 150 ans, il y a des mesures thermométriques à peu près partout dans le monde. Alors pas complètement partout dans le monde. Hein. On allait très peu en Antarctique il y a 150 ans. Personne n'était allé au pôle sud, donc on n'avait pas de thermomètre au pôle sud. Par contre, il y avait déjà des gens qui étaient allés sur les côtes de l'Antarctique. Et puis, il y avait déjà pas mal de transports sur les océans. Donc, il y avait des mesures, pas partout, mais dans quand même beaucoup d'endroits pour avoir une bonne idée de quelle était la température moyenne de la Terre à cette époque. Alors, donc, ce que vous voyez, c'est que donc sur les 150 dernières années, hein, aujourd'hui, on est à droite. Donc, j'ai pas 2010 hein, sur cette graphique. Je m'arrête à 2009. Mais vous voyez que sur les 150 dernières années, eh ben la température moyenne de la Terre a augmenté de typiquement 1 degré, avec deux périodes, avec une augmentation assez nette au début du XXe siècle, et puis surtout une augmentation rapide de la température depuis typiquement 1980. Il y a eu une augmentation rapide depuis cette époque-là, avec donc vous voyez qu'il y a aussi des variabilités d'une année sur l'autre. Hein. C'est pas chaque année on prend un centième de degré et compagnie. Il y a quand même des années plus chaudes, il y a quand même des années plus froides, bah, parce que il y a des phénomènes, bah, c'est de la météo aussi, hein. Donc il y a de la variabilité d'une année sur l'autre. 2010 en France a été plutôt plus froid que la moyenne. Par contre, 2010 dans le monde a été plutôt nettement plus chaud que la moyenne. Je vais en dire un mot dans un moment. Mais donc, vous voyez quand même qu'il y a des années chaudes et des années froides. En particulier, un des trucs qui explique la variabilité rapide, c'est quand il y a une éruption volcanique vraiment importante. En particulier, bah, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années maintenant, il y avait le Pinatubo, qui était un volcan qui a explosé, qui a mis plein de cendres dans l'atmosphère et qui a diminué la température de la Terre de typiquement un demi degré pendant deux ans. Donc ça, donc les éruptions volcaniques ont un effet sur la température à court terme, hein, pendant un an, deux ans, trois ans. Et puis il y a les phénomènes El Niño, quelque chose que vous avez peut-être entendu parler. C'est un phénomène atmosphérique océanique qui se passe dans le Pacifique et qui lui aussi modifie la température moyenne de la Terre assez nettement. Donc bref, donc c'est ça. Mais vous voyez que la tendance à l'augmentation est très nette. Alors il y a souvent on se pose la question, bah, c'est quoi les années records? Alors pendant assez longtemps, jusque le 1998 avait été une année très très chaude, parce qu'il y avait justement un événement El Niño qui était complètement, enfin, hors de proportion par rapport à ce qu'on avait observé au cours du XXe siècle. Donc c'était vraiment l'année la plus chaude pendant plusieurs années. Alors il y a des gens qui se sont servis de ça pour dire, ah mais depuis 1998 la température baisse, simplement parce qu'il y avait eu une année qui était plus chaude, et donc ils en déduisaient qu'il n'y avait plus de réchauffement climatique. Donc ça c'est vraiment une manipulation des données qui n'est pas bonne. En fait, depuis, ça a été le record de 98 a été battu deux fois. En 2005 et en 2010, un peu à égalité. Ce que vous avez sur ce graphique-là, c'est la température de la Terre, mois par mois, au cours de l'année. Hein, donc vous voyez que ça va de 1 à 12, donc de janvier à décembre. Et donc vous avez les courbes, qu'est-ce qu'on a observé en 98, en 2005 et en 2010. Et en fait, vous voyez que la courbe en rouge, c'est en 2010. Vous voyez que sur le début de l'année, c'est la courbe en rouge qui est vraiment proche des records. Donc ça veut dire que on était parti pour avoir une année vraiment très 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 chaude. Et jusqu'au mois de novembre, en fait, en moyenne sur l'année, c'était l'année 2010 tenait le record de température. Et donc moi j'avais même pris des paris en disant c'est bon, cette année 2010 va battre le record de température. Et vous voyez qu'au mois de décembre, il s'est passé un truc là. Justement, il y a eu un peu le contraire de El Niño. Donc tout d'un coup, la température moyenne de la Terre a baissé de 3 dixièmes de degré à cause de ce truc-là. Ce qui a modifié un petit peu la température moyenne de 2010. Et donc au lieu d'être une année record, eh ben, ça n'a qu'égalisé le record de 2005. Mais donc voilà, donc les années records au point de vue température, c'est 98, 2005 et 2010. Donc on observe une augmentation de la température à peu près partout. Alors, il y a des gens qui disent mais non, c'est pas du réchauffement global, regardez à tel endroit, à New York, on n'observe pas un réchauffement du climat. Alors, pour répondre à ça, vous avez en bas à droite, vous avez une carte qui montre un peu quelle est la tendance à la température. Est-ce que c'est plutôt en train d'augmenter? Est-ce que c'est plutôt en train de diminuer sur les 20 dernières années? Donc quand il y a un point rouge, c'est qu'on observe plutôt une tendance à l'augmentation de la température. Quand on a un point bleu, c'est qu'on observe plutôt une tendance à la diminution de la température. Et puis la taille du point, c'est savoir si l'augmentation ou la diminution est forte ou basse. Donc si vous avez un gros point rouge, c'est qu'il y a une augmentation très rapide. Et puis si vous avez un petit point bleu, c'est plutôt une baisse de température, mais plutôt lente. Alors ce que vous voyez, c'est qu'il y a des points rouges pratiquement partout. Donc ça veut dire qu'on a le droit de parler de réchauffement global, puisque le réchauffement, il est observé pratiquement partout. Vous voyez aussi que ce n'est pas complètement vrai, c'est-à-dire que par exemple, sur l'est des États-Unis ou sur la Chine, on observe plutôt une diminution des températures. Alors ça, on n'est pas complètement sûr du pourquoi. Il y a plusieurs hypothèses sur ces questions-là. Une hypothèse qui est facile à expliquer, c'est que l'homme, en même temps qu'il émet du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, il émet des petites particules, ce qu'on appelle des aérosols. Donc c'est des petites particules qui ont une taille de typiquement 1 micron, donc c'est invisible, c'est presque pas visible à l'œil nu, mais ça conduit à une atmosphère qui est un peu brumeuse, et en fait ça renvoie les rayons du soleil vers l'espace. Hein, la lumière est diffusée, et donc elle est renvoyée vers l'espace, et donc ça conduit à moins d'énergie solaire qui arrive à la surface, et donc à une baisse des températures. Et ça, tout à l'heure, je vous expliquais qu'en Chine, il y avait un développement économique très important, basé sur le charbon, et justement, ça fait de la pollution, finalement, hein, ces particules, c'est de la pollution, et qui a été très forte en Chine, et donc c'est ça qui pourrait expliquer la baisse des températures qu'on observe en Chine. Alors, vous savez, dans la première partie de mon exposé, je vous ai parlé du changement de la composition atmosphérique, donc essentiellement du dioxyde de carbone. Je vous ai expliqué tout à fait en début de mon exposé que le mécanisme de l'effet de serre, hein, le fait que l'atmosphère était opaque au rayonnement solaire et était d'autant plus opaque qu'on mettait plus de dioxyde de carbone dans cette atmosphère. Et puis, donc, a priori, on devrait avoir une tendance à l'augmentation des températures si on augmente le CO2. Et puis, je vous ai montré aussi à l'instant là qu'on observait sur la Terre une augmentation des températures. Alors, une question qui est naturelle de se poser, c'est que est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que on observe les deux choses en parallèle, mais c'est pas une preuve. Hein. Il faut faire attention. C'est pas parce qu'il y a deux choses qui augmentent ou qui diminuent dans le même sens que c'est parce qu'il y en a une qui pousse l'autre. Donc il faut faire des recherches plus précises, il faut essayer de mieux comprendre ce qui se passe, il faut regarder plus dans les détails, c'est-à-dire il ne faut pas regarder uniquement l'augmentation des températures, il faut regarder le profil de température, il faut regarder la température de jour et de nuit, il faut regarder la quantité de neige au sol, tout un tas de choses. Donc ça c'est ce que font les climatologues. Et donc si on leur pose la question, est-ce qu'il y a un lien entre CO2 et température? Alors, justement, on pose cette question. Enfin, c'est un des objets de le groupe de le GIEC, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce groupe qui est mis en place par l'ONU et dont je fais partie depuis cette année. Donc, il fait un peu un rapport tous les 4 ans. En fait, qu'est-ce qu'il fait ce groupe-là? Il lit toute la littérature scientifique. La littérature, c'est les chercheurs, en fait, quand ils pensent avoir trouvé quelque chose, ils l'écrivent. Enfin, ils écrivent, ben voilà, tiens, j'ai analysé telle donnée, je pense avoir compris ça, et d'ailleurs, j'ai le droit de dire ça pour telle et telle raison. Et donc, une fois qu'ils ont ça, ils le soumettent à un journal, donc des journaux scientifiques, hein, c'est pas des choses grand public. Et ensuite, il y a tout un processus. En fait, après, c'est que les journaux, ils envoient l'article à d'autres chercheurs, et les autres chercheurs, ils ont le boulot de regarder si, a priori, c'est bien fait, si c'est du bon travail, s'il n'a pas oublié de regarder quelque chose. Et donc, les articles peuvent être acceptés ou refusés. Hein, c'est ça la démarche normale du scientifique. C'est comme ça que fonctionne la recherche. Donc, bref, à partir de tous ces articles scientifiques, en fait, le GIEC, son boulot, c'est de lire un peu tout ça, et puis de faire un résumé, de faire un peu un état de la science du moment, et donc de l'ensemble. Donc, les articles, hein, c'est plusieurs milliers d'articles chaque année, donc plusieurs dizaines de milliers de pages, qu'on résume dans un rapport qui fait à peu près 500 pages, qui est quand même pas très facile à lire. C'est un excellent travail, mais là aussi, c'est pas destiné au grand public, c'est plutôt destiné à des scientifiques. Mais après, de ces 500 pages, on part aussi sur un rapport, ce qu'on appelle un rapport pour les décideurs. Donc c'est un document qui fait une vingtaine de pages, et qui, lui, pour le coup, peut être lu, normalement, par des gens qui n'ont pas forcément une formation scientifique, et vous avez parfaitement le niveau pour lire ce document. Et donc, qu'est-ce qu'on raconte dans ce document? Eh ben, en 1990, en fait, les chercheurs, donc ce GIEC, disaient qu'il y avait peut-être un lien, mais ils ne l'affirmaient pas. En 95, là, il y avait un peu plus de certitude. Donc, en gros, le rapport, il disait, bah oui, a priori, enfin, il semble qu'il y a un lien entre l'augmentation des températures et le changement de la composition de l'atmosphère. En 2001, la réponse était probablement. Et puis en 2007, c'était vraiment très probablement, c'est-à-dire en gros, il y a plus de doute que le changement climatique qu'on observe aujourd'hui est lié à l'activité, aux activités humaines, au fait qu'on met du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors pourquoi on arrive à dire ça maintenant? Ben en fait, c'est parce qu'il n'y a pas que la température, évidemment. On regarde plein d'autres paramètres, et on regarde en fait s'ils sont cohérents avec ce qu'on observe avec l'augmentation des températures. Alors quels sont les autres paramètres qu'on va regarder? Ben, par exemple, ça va être la surface de la banquise. La surface de la banquise, tout à l'heure je vous en ai dit un mot, c'est quelque chose qui s'observe très bien par satellite. Donc vous avez en haut à droite, là, vous avez une courbe, hein, je ne sais pas si on la voit très bien, mais en gros, donc sur les 20 dernières années, eh ben, on voit très bien que la surface de la banquise diminue pratiquement chaque année. C'est-à-dire que pratiquement chaque année, il y a la surface de la banquise est plus faible que celle des années précédentes. Puis, une autre chose qu'on observe très très bien, c'est la montée du niveau des océans. Alors, c'est pas énorme, hein. C'est de l'ordre de 3 mm par an. Aujourd'hui, les océans montent, la surface des océans monte de 3 mm par an. On peut l'observer simplement avec des marégraphes, mais on peut l'observer maintenant par satellite. On arrive à faire cette mesure-là. Alors, pourquoi est-ce que l'océan monte, hein, bien sûr, il faut essayer de comprendre pourquoi. Ben, en fait, il y a une partie, c'est lié à la fonte des glaciers, la fonte du Groenland. On observe très bien que le Groenland est en train de perdre de la glace. Quand il perd de la glace, ben, c'est de l'eau, c'est la glace qui fond et qui va dans l'océan, donc ça fait remonter un petit peu le niveau de l'océan. Mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est simplement aussi que l'eau chaude, donc l'eau de l'océan chauffe, et de l'eau plus chaude, ben, ça prend plus de place. Et donc si ça prend plus de place, eh ben, le niveau de l'eau monte un peu. Donc les deux effets, ils ont à peu près le même ordre de grandeur, donc quelques 1 ou 2 mm chaque année. Donc ça veut dire qu'à la fin du siècle, on pourrait avoir une augmentation de 30 cm du niveau marin, mais on pense même que ça va être plutôt plus que ça. Bon, je m'aperçois que ça fait déjà 47 minutes que je parle, donc je vais accélérer un peu. Donc j'aurais pu parler des glaciers aussi, dont on observe très bien la diminution. Hein. Moi je fais beaucoup de montagnes, je vais souvent dans les Alpes, et je peux observer au cours de ma propre vie que il y a 15 ans, il y avait des endroits où quand je marchais en montagne, ou quand je faisais du ski de randonnée en montagne, il y avait un glacier, et maintenant il n'y a plus de glacier à cet endroit-là. C'est quelque chose qui bouge à l'échelle d'une vie humaine. Donc pour le futur, qu'est-ce qui va se passer? En fait, qu'est-ce qui va se passer au cours du XXIe siècle? Bon, en fait, ce qui va se passer, ça dépend un petit peu des mesures politiques ou des mesures individuelles qui seront prises. C'est-à-dire que peut-être que finalement l'humain va prendre conscience du danger potentiel du réchauffement climatique et donc va faire de vrais efforts pour diminuer, pour sortir de la dépendance qu'on a aux combustibles fossiles, pour essayer de moins utiliser de charbon ou de pétrole qu'on le fait actuellement. À mon avis, on n'en prend pas le chemin, mais peut-être que ça va arriver. Et puis, ou alors, peut-être qu'on va continuer à faire la même chose. Peut-être qu'on va se dire, ce qui est urgent, c'est de sortir du nucléaire, donc on va remplacer toutes les centrales nucléaires par des centrales au gaz et au charbon, et on va continuer comme ça à émettre du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Auquel cas, donc là, je vous remonte une courbe de la courbe de dioxyde de carbone que je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc avec les variations naturelles, là où on en est aujourd'hui, et puis, a priori, où est-ce qu'on sera en 2100? Hein, donc si rien ne change, a priori en 2100 on devrait arriver à des concentrations qui sont de l'ordre de 650 parties par million. Alors après, comment on fait avec ça? Eh ben, pour prévoir le climat, on est bien obligé de passer par des ordinateurs. Hein, il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors comment on fait? Comment ça marche très très rapidement? Ben, très rapidement, on essaye de comprendre le climat d'aujourd'hui. Alors comprendre le climat d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, par exemple, c'est quels sont les paramètres qui font qu'il y a un nuage qui se forme à un endroit donné. Donc on va faire des mesures sur le terrain, on fait des vols aéroportés, on regarde la composition des nuages, on regarde quelle est l'humidité en dessous du nuage, au-dessus du nuage, bref. Et une fois qu'on a tout compris, et qu'on a compris que tout ça, on va dire, ok, ça y est, j'ai compris, il y a un nuage qui se forme si l'humidité est supérieure à 97% et la température est inférieure à tant, et le vent est supérieur à tant. Je dis n'importe quoi, mais c'est de l'ordre de grandeur. Donc on va mettre une équation, on va mettre tout ça en équation, et on va dire nuage égale fonction de température, humidité, vent, tout ce qu'on veut. Bon, c'est un des multiples exemples, des multiples processus qu'il y a qui permettent de quantifier le climat. Ensuite, on va découper la Terre. Là, c'est la deuxième image. On va découper la Terre en une petite grille. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder point par point quel est le climat, mais on va mettre un point tous les 100 km en horizontal, et puis un point tous les 500 mètres sur la verticale. Donc on va ce qu'on appelle discrétiser la Terre. Et puis on va mettre ensuite, ce que je vous ai expliqué, là, les équations, les processus, on va les mettre en équation, on va faire un programme dans un ordinateur qui simule le climat, et donc qui est capable a priori, de prévoir là où il y a des nuages, là où il y a de la vapeur d'eau, là où il y a des vents. Donc c'est un peu les modèles météo qu'on utilise aujourd'hui. Simplement, ils ont pas exactement la même échelle, mais ça ressemble tout à fait aux programmes qui sont utilisés pour faire la météo aujourd'hui. Et donc ensuite, on va faire tourner ce programme-là en lui disant, on va dire à l'ordinateur, ok, qu'est-ce que t'as comme température moyenne pour 350 parties par million de CO2, et qu'est-ce que tu as comme température moyenne pour 400 parties par million? Donc c'est l'ordinateur qui va nous dire. Alors je voudrais tout de suite, on va faire des simulations sur le futur, mais ces simulations, on a besoin de leur rentrer un certain nombre de choses, dont la concentration de dioxyde de carbone. Alors tout de suite, là, puisqu'il y a quelques minutes là, ou quelques secondes, je vous ai dit que c'était à peu près les mêmes programmes que pour prévoir la météo, je voudrais tout de suite répondre à la question, mais comment vous pouvez dire que vous allez prévoir le climat du 21e siècle, alors que vous n'êtes même pas capable de dire quel temps il va faire la semaine prochaine? En fait, pour répondre à ça, c'est la différence entre la météo et le climat, c'est que pour la météo, on a besoin de savoir quel temps il fait un jour donné. Alors que le climat, c'est on travaille sur des moyennes. Alors aujourd'hui, je suis pas capable de vous dire si le 14 juillet de cette année, il va faire plus ou moins chaud que le 10 avril, là, il y a 3 jours. D'accord ? Et le 10 avril, il fait assez chaud. 14 juillet, peut-être qu'il va faire chaud, peut-être qu'il va faire pas, j'en sais rien. Donc on peut pas dire ça, effectivement. Par contre, je pense qu'il n'y a pas, vous allez me croire que je peux vous affirmer que la température moyenne du mois de juillet sera plus importante que la température moyenne du mois de mars. Parce qu'on travaille sur des moyennes, et quand on travaille sur les moyennes, il y a toutes les variabilités à court terme qui sont éliminées, qui sont lissées, en fait, on dit. Et du coup, le climat, c'est un peu la même chose. Je peux pas vous affirmer que l'année 2090 sera plus ou moins chaude que l'année 1990, mais par contre, faire du climat, ça veut dire, je vais essayer de comparer les années entre 2090 et 2100 aux années entre 1990 et 2000. Et ça, Du coup, je peux dire des choses sur les moyennes que je ne peux pas dire sur les valeurs individuelles. Donc c'est ça la différence entre météo et climat. Alors qu'est-ce qui va se passer au cours du prochain siècle? Eh bien, d'une part, comme je vous l'ai dit, ça dépend un petit peu de comment le CO2 dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone va augmenter, ça dépend des mesures qui seront prises. Et puis, il y a aussi de l'incertitude qui est liée au modèle de climat. C'est-à-dire que il y a différents groupes dans le monde qui ont fait des modèles du type de ceux dont je veux vous parler à l'instant. Certains sont très sensibles, c'est-à-dire que certains prévoient que si on double la concentration de dioxyde de carbone, on va prendre plus 6 degrés. Et puis il y en a d'autres qui sont moins sensibles. Donc avec la même concentration de dioxyde de carbone, ils ne prédisent qu'une augmentation de 3 degrés. Donc il y a quand même encore des incertitudes là-dessus, qui sont essentiellement liées justement à comment les nuages sont programmés dans ces modèles. En fait, il y a pas mal d'incertitudes encore sur la réaction des nuages dans le cas du changement climatique. Mais voilà un petit peu typiquement. En fait, vous avez les différentes hypothèses sur le futur sont dues d'une part aux différents scénarios d'émissions de dioxyde de carbone, hein, mais ça c'est pas du climat, ça c'est de l'économie, c'est de la sociologie, c'est comment est-ce qu'on va continuer à émettre du carbone dans l'atmosphère. Et puis, ensuite, par contre, il y a des incertitudes liées au climat, donc c'est les barres verticales. Pour un scénario de CO2 donné, il y a différentes incertitudes, donc qui est liée à l'incertitude. Alors, donc, vous voyez, typiquement, les modèles prévoient qu'on va se prendre entre plus 2 et plus 6 degrés à la fin du siècle. Alors, est-ce que c'est beaucoup, ça? C'est beaucoup, donc qu'est-ce que c'est que le climat sensible? Donc ça, c'est un petit peu long à expliquer, mais pour vous expliquer que vous étiez un petit peu jeune en 2003. En 2003, il y a eu une énorme canicule. Il y a eu une énorme canicule en France. Hein, ça a tué 15 000 personnes qui sont mortes a priori du fait de cette canicule. Donc ça, c'est dramatique. À mon petit niveau, mes vacances au mois d'août ont été complètement gâchées parce que c'était impossible. C'est tellement chaud que c'était impossible de faire quoi que ce soit. Donc ça a eu des répercussions économiques très importantes. Et pourtant, la température moyenne de l'été 2003 a été seulement 4 degrés au-dessus de la moyenne normale. Donc finalement, 4 degrés, c'est absolument énorme, quoi. C'est quelque chose c'est un climat qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Si effectivement on se prend 4 degrés sur l'année, même humainement, on s'en rend compte. C'est pas parce que la différence entre l'été et l'hiver, finalement, c'est plus que ça, qu'on n'est pas sensible à 4 degrés. Donc si vraiment on a le changement climatique, si vraiment on se prend 4 degrés, voire 6 degrés à la fin du siècle, c'est un climat qui n'a rien à voir. Ça veut dire que les endroits où on peut faire pousser du maïs aujourd'hui, ça sera plus du tout le même. Ça veut dire que les endroits où il pleut aujourd'hui sont pas nécessairement les mêmes. Ça veut dire que les cyclones ne vont pas forcément passer au même endroit. Alors ça ne veut pas dire que toute la Terre va devenir inhabitable. J'ai absolument pas dit ça. Il y a peut-être même des endroits qui vont devenir plus confortables qu'aujourd'hui. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, les populations sont distribuées par rapport à un certain climat. Donc si vous changez le climat, il y a toutes les infrastructures, toute la distribution des populations qui ne sont pas adaptées à ça, et donc ça peut être très très désagréable. Je crois que ça va être mon dernier transparent, juste pour dire que c'est la faute de qui tout ça là? C'est qui les gros pollueurs qui mettent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère? C'est vrai qu'on entend souvent les gros pollueurs c'est les Américains, tout ça c'est de leur faute, et donc si c'est eux qui sont responsables du changement climatique. De plus en plus on entend dire c'est les Chinois avec toutes leurs centrales au charbon, c'est eux qui sont en train de changer le climat. Alors en fait ce graphique là il montre justement les émissions de dioxyde de carbone par personne sur une année. Donc vous voyez que la moyenne du monde, vous voyez pas les chiffres, ils sont un petit peu trop petits, mais vous voyez la moyenne du monde, c'est une tonne de carbone. Alors ensuite, une tonne de carbone, ça fait presque 4 tonnes de dioxyde de carbone. Hein, donc ça, c'est l'ordre de grandeur. Vous voyez que la France est au-dessus de la moyenne mondiale. Vous voyez que les États-Unis sont complètement au-dessus de la moyenne mondiale. Hein, les pays les plus pollueurs par personne, c'est les États-Unis, l'Australie et l'Arabie Saoudite. Bon, l'Arabie Saoudite, ils sont pas très nombreux, donc c'est pas très grave. Mais vous voyez que l'Allemagne, qui a un niveau de vie qui est comparable à celui de la France, est quand même significativement au-dessus de la France. Hein, donc les Français sont un peu plus vertueux que les Allemands sur ce type-là. Mais vous voyez que les Français sont au-dessus de la moyenne mondiale. Et vous voyez aussi que les Chinois sont plutôt en dessous, encore en dessous de la moyenne mondiale, quoique cette figure, elle commence à être un petit peu vieille, et les émissions de la Chine ont déjà pas mal augmenté et ont rattrapé la moyenne mondiale. Mais donc, pourquoi je dis ça? Bon, parce que effectivement, il y a des énormes disparités entre les pays. Et puis je dis ça aussi pour dire que, à mon avis, tant que la France sera au-dessus de la moyenne mondiale, eh ben, on n'a pas de leçons à donner aux Américains, quoi. Donc, c'est pas parce que les Américains sont plus pollueurs que nous, qu'il faut pas toujours regarder au-dessus. Il y a aussi plein de pays qui font mieux que nous, qui émettent moins de dioxyde de carbone que nous. Et donc, tant que nous, on sera au-dessus de la moyenne mondiale, on n'aura pas à critiquer les autres. Donc, c'est à tous les pays de faire des efforts, et en particulier à tous les pays qui sont au-dessus de la moyenne mondiale. Alors bon, tout à fait à la fin, là, j'avais dit que je m'arrêtais, mais généralement on me dit alors qu'est-ce qu'on peut faire. De toute façon, ça, vous l'entendez généralement, il faut faire attention, il ne faut pas trop chauffer, il faut privilégier l'isolation, il faut essayer d'éviter de prendre la voiture chaque fois qu'on le peut. Bon, c'est des trucs vraiment, vraiment classiques que vous pouvez trouver dans pas mal d'endroits. Et j'ai une dernière petite blague, là, une nouvelle preuve du changement climatique. Vous voyez que c'est voilà. Je vous remercie et je réponds à toutes vos questions qui, j'espère, seront nombreuses.